Bien, merci Jean. C'est une présentation très riche que vous nous avez offerte et je vois beaucoup de points de controverses qui peuvent inviter des débats et des questions. Alors, je pense que nous avons une vingtaine de minutes.
Monsieur Bobéro, je vous remercie pour cet exposé très clair. Je voudrais simplement savoir si ça vous est possible, dans le temps qui nous est imparti, de faire la relation entre tout ce que vous venez de nous dire et vos trois seuils de laïcisation qui m'intéresse vraiment énormément. Et je suis intéressé par la question précisée de la façon suivante. Est-ce que ces trois seuils de laïcisation, vous pouvez les préciser en fonction de la temporalité historique, passé, présent, futur, et les préciser peut-être en fonction des domaines, parce que je vois très clairement que le premier seuil de laïcisation concerne le politique et le religieux. Par contre, les deux seuils suivants me paraissent très audacieux, très intéressants, et il semblerait qu'ils entraînent la laïcité vers un futur.
Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi Vatican II a aidé à gagner ce pari, comme vous le disiez? Et puis, une petite question, alors le diable est dans les détails, mais vous parliez de la frontière entre cultuel et culturel. Que penser de ces sapins de Noël qui ont été interdits d'espace public dans certaines municipalités du Québec?
Faire une première réponse. Bon, alors, je suis un peu embêté par l'ampleur de votre question sur les trois seuils de la laïcisation. Alors, il y a deux possibilités. La première réponse commode qui serait de vous renvoyer aux ouvrages où j'en parle, et notamment alors un ouvrage que j'ai fait avec Micheline Milo qui s'appelle « Laïcité sans frontières », où il y a toute une partie consacrée aux seuils de laïcisation. Bon, mais je vais quand même pas en rester là. Effectivement, ces trois seuils sont une temporalité historique, mais je dirais socio-historique, c'est-à-dire que c'est des couches d'historicité. Quand je parle de couches d'historicité, ça veut dire que les choses sont construites de façon dominante pendant une période historique, mais ça ne veut pas dire que ça s'efface comme ça dans la période historique suivante. En gros, la couche d'historicité, le premier seuil, pour moi, a été construit pendant la Révolution française et son recentrage napoléonien. Mais comme je l'ai dit, cet héritage de la Révolution et de Napoléon Bonaparte, il est toujours présent dans la structure politique, sociale, française, etc. Les préfets, c'est une création de Bonaparte, mais les préfets prenaient la suite aussi des intendants, etc. Hein, on peut à chaque fois remonter. Bon. Le second seuil, le premier seuil, c'est aussi les conflits subséquents, disons, à cette construction et le fait que le pluralisme instauré par ce premier seuil a été dominé, disons, par le conflit des deux France, par le conflit cléricalisme-anticléricalisme. Le deuxième seuil, c'est le seuil auquel je me suis référé en parlant de 1905, c'est à la fois la loi, les mesures des républicains, la loi de Jules Ferry, mais aussi la loi sur le divorce, la loi sur les cimetières, etc., les lois instaurant ce que j'ai appelé les libertés laïques, y compris, donc, dont la religion y compris a été bénéficiaire, ce qu'on oublie trop souvent, et la loi de 1905, qui est la dernière de ces grandes lois instaurant des libertés. Et effectivement, dans la mesure où la loi de 1905 et la loi Jules Ferry, à part l'Alsace-Moselle, sont toujours des lois actuelles, eh bien, ce second seuil, il est encore très présent. Et d'ailleurs, la loi sur le divorce, elle a été modifiée à plusieurs reprises, mais les seuils, c'est des dynamiques, c'est pas des choses figées une fois pour toutes. Bon. Et le troisième seuil, alors justement, ce qui est intéressant, c'est que le troisième seuil, on peut pas le marquer par une grande loi ou par etc. Pour moi, le troisième seuil, il a commencé entre 1968 et 1989, c'est-à-dire que 1968, c'est le déclin des institutions. Et moi, j'analyse beaucoup le raidissement, justement, laïque face à un certain islam, etc., comme quelque chose qui prend un bouc émissaire dans ce déclin des institutions. Il y a un réel problème, si vous voulez, sur le fait que les institutions, alors elles étaient sans doute trop sûres d'elles-mêmes et des zones de non-droit souvent, maintenant elles sont contestées. Hein, et maintenant c'est difficile d'être professeur, c'est difficile d'être médecin, c'est difficile, etc. Parce qu'on n'est plus du tout dans la situation du magistère professoral ou médical, etc., qui existait encore dans les années 50 et au début des années 60. Bon. Mais c'est une situation globale. C'est une situation globale. Et si on veut analyser les revendications religieuses dans ces institutions, il faut les analyser dans le cadre de cette situation globale et pas justement... Et le terme laïcité sert souvent à faire une frontière fausse, disons, pour un sociologue, anti-scientifique, pour un sociologue, entre justement ce qui relèverait de la laïcité et du coup ce qui ne relèverait pas de la laïcité, on ferait l'impasse. Bon, alors qu'il faut analyser ça globalement et on ne peut pas se faire l'économie d'une analyse globale. Bon, donc mai 68, c'est la date emblématique sur ce changement d'optique par rapport aux institutions. Et 1989, sa première affaire de foulard, c'est effectivement le fait que face à cette nouvelle relation à l'institutionnel, eh bien, c'est à propos de jeunes filles musulmanes qu'on marque des limites et qu'on arrête, disons, la pente un peu libertaire qui s'était notée. Bon. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a les trois seuils de laïcisation qui fonctionnent ensemble, hein, et c'est bien un peu la difficulté, mais la richesse de l'analyse. Et je dirais que tourner le présent et le futur, peut-être qu'il faudrait à ce niveau-là être plus attentif aux idéaux du deuxième seuil, parce que justement, si la laïcité a été très libérale dans le second seuil, c'est parce que le second seuil avait une projection vers l'avenir que nous avons de la peine à avoir aujourd'hui. Et moi, c'est en ça que j'ai parlé de la perspective des racines comme une perspective passéiste qui nie l'historicité et qui amène à regarder en arrière vers un passé mythique et complètement reconstruit. Bon. Alors que le politique, c'est quand même beaucoup plus la projection dans l'avenir. Bon. Ce fameux débat sur parler du fait qu'il y a une dimension chrétienne dans des États européens, sur le plan historique, personne ne le nie. Hein. Et dans les livres, si on fait un livre d'histoire européen, évidemment, la présence du christianisme sera très forte et on dira un certain nombre de choses qu'on peut dire dans l'état actuel de l'avancement de la science historique. Bon. Mais en faire un thème juridique, c'est extraordinaire, parce que quand il y a eu la création de la Convention européenne des droits de l'homme, les partis démocrates chrétiens étaient très puissants, voire au pouvoir, etc. Et personne n'a voulu mettre une référence au christianisme dans la Convention européenne des droits de l'homme. Par contre, quand il y a eu la charte de Nice en 2000 qui était sur le même sujet, par contre, là, il y a eu un débat, alors que la pratique religieuse avait beaucoup baissé, etc., pour savoir si on faisait une référence au christianisme ou pas. Donc, c'est un peu dans cela qu'il faut analyser. Et le troisième seuil est un moment pour moi de tâtonnement, alors qui, j'espère, donnera du nouveau. Hein, la crise, ça peut être quelque chose d'intéressant quand on arrive à la dépasser, mais c'est certainement un moment de tâtonnement où la France, qui était le deuxième empire colonial du monde après le Royaume-Uni, se retrouve puissance moyenne et doit redéfinir sa place par rapport à son imaginaire et ses réelles possibilités, bon, d'où le débat européen, d'où etc., etc., d'où un certain nombre de débats que vous connaissez bien. Bon. Alors, en quoi Vatican II a gagné le pari? Bon. Alors là encore, c'est toute la différence et l'interaction qui peut exister entre laïcité et sécularisation. Bon. Quand y a la loi de 1905, les autorités religieuses catholiques sont très contre une sécularisation. Et les gens qui tentent de faire une certaine sécularisation interne du christianisme, une acculturation à la modernité, sont crossés par les autorités religieuses. Le modernisme en 1908, le Sillon en 1910, si vous voulez, dans le court terme, les gens qui craignaient que la loi de séparation rende l'Église plus puissante, rende l'Église plus extrémiste, etc., ça semble se... Bon, et puis il y a le refus du pape de la loi elle-même, tout ça semble se confirmer. Bon. Et en même temps, c'est là où la loi de séparation est une petite merveille, à partir de 1908, la situation est calme, la situation est tranquille, la situation est pacifiée, en gros. Bon. Donc, vous avez cette Église catholique hostile à la modernité, hostile à une certaine sécularisation, etc., et en même temps, laïcité qui réussit son pari de pacifier les conflits politico-religieux et de faire fonctionner les choses dans le calme. Et on voit bien, donc là, la différence entre laïcité et sécularisation. Et, l'Église catholique existe comme Église non sécularisée. Et dans les années 30, offensive voulant re-christianiser la France. Tous les mouvements d'action catholique, c'était dans ce but-là qu'ils étaient dynamiques. Et ils recevaient des mandats de la hiérarchie, d'ailleurs, pour ce faire. Bon. Et puis, il s'avère, en fait, que ces mouvements d'action catholique qui devaient recristianiser la France, en fait, progressivement, ils deviennent des intermédiaires culturels entre la modernité... Alors, évidemment, je dis ça à très gros traits, hein, je donne un schéma dans les... Bon. Entre la modernité culturelle et sociale, et puis des forces vives du catholicisme. Et, alors, au niveau, par exemple, des mouvements paysans et agricoles, c'est tout à fait impressionnant de voir comment ces mouvements qui devaient re-christianiser paysannerie, les campagnes françaises qui étaient en train où la pratique religieuse baissait, inventent la modernité dans l'agriculture française et sont des éléments importants. Bon. Et c'est sans doute pas un hasard si des gens qui étaient des francs-tireurs à la frontière de l'excommunication, comme Congar, Chenu, etc., etc., deviennent des experts de Vatican II. Bon. Les autres experts, c'est les Allemands dans une situation de pluralisme et de force égale du catholicisme et du protestantisme, etc. C'est-à-dire que, pour moi, effectivement, la laïcité française a indirectement, mais complètement indirectement, sans prendre des mesures répressives et sans prendre des mesures d'obligation, a aidé le catholicisme français, en tout cas certaines élites, proposer un aggiornamento qui est dans la difficulté, dans la douleur, avec des crises internes. Rappelez-vous les prêtres ouvriers, la manière dont ils ont subi des... Bon. Et vous avez au moment de Vatican II, par exemple, justement, les prêtres qui abandonnent la soutane. Mais c'est les prêtres qui abandonnent la soutane. C'est pas la laïcité qui les oblige à ne plus porter la soutane. C'est la plupart des religieuses abandonnent leur habit spécifique. Mais c'est elles volontairement qui le font. C'est pas la laïcité qui leur demande. Et si vous voyez d'ailleurs justement l'Alsace-Moselle, vous avez plein de religieuses avec, si vous voulez, le front, les oreilles, une partie du menton qui est cachée et qui ont leur habit. Et personne ne leur dit rien et personne ne les stigmatise pour cela. Bon. Donc il faut bien différencier laïcité et sécularisation tout en disant qu'évidemment il y a des interactions et qu'une laïcité réussie favorise non pas l'irreligion mais favorise une gymnastique intellectuelle, si vous voulez, au sein même des croyances religieuses. C'est ce que j'appelle dans mon livre « La laïcité falsifiée », c'est ce que j'appelle la laïcité intérieure, qui n'est pas l'obligation de ne pas croire ou l'incitation à ne pas croire, mais l'incitation à une gymnastique intellectuelle qui est demandée à tous, d'ailleurs, aux athées convaincus comme aux religieux convaincus, pour justement ne pas avoir une croyance dogmatique qui s'imposerait à l'ensemble de la société et qui ne respecterait pas la société civile. C'est là où, et qui voudrait dominer, phagocyter l'État, etc. Bon. Et c'est là où, pour replacer la laïcité dans le cadre des libertés laïques, il faut poser en termes de laïcité la question de l'euthanasie, la question du mariage entre personnes de même sexe, etc. Avec d'ailleurs des choses très intéressantes quand on voit l'exemple de pays étrangers. En Argentine, il y a toujours une loi très très restrictive sur l'avortement et il y a l'autorisation maintenant du mariage entre personnes de même sexe. Autrement dit, il y a des situations très différentes à observer à travers le monde sur ces questions-là. Mais, si vous voulez, la laïcité doit se réinvestir dans ces problèmes parce que derrière ça, il y a la grande question de savoir s'il y a un ordre anthropologique et symbolique immuable, ahistorique, atemporel. Bon, mais c'est la question déjà que posaient les adversaires du divorce en disant que la famille était une réalité naturelle, etc., etc. Bon. Ou s'il y a évidemment des limites anthropologiques, il y a évidemment un respect de la dignité de l'être humain, etc. Mais finalement, il y a des mutations sociales, il y a des mutations culturelles, et c'est la responsabilité de la société politique à chaque époque de définir l'ordre anthropologique. Cet ordre anthropologique lui-même, il n'est pas historique, il n'est pas temporel, il est redéfini suivant les périodes par la société politique, et c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Alors, vous voyez, ça signifie évidemment que cette société, elle est libre et responsable, et qu'il n'y a pas un dieu qui impose des lois de manière autoritaire. Mais c'est ça le cléricalisme, c'est la croyance à un dieu qui impose des lois de manière autoritaire. Bon. Et la question de l'euthanasie, les questions, un certain nombre de questions de bioéthique ont été un peu désinvesties par les militants laïcs, et je trouve ça tout à fait dommage. Bon. Donc j'ai un peu replacé l'affaire de Vatican II dans quelque chose de plus large, mais Vatican II est typique de la différence de rythme historique entre laïcité et sécularisation. Bon. Alors, les sapins de Noël au Québec, bon, moi, je voudrais pas être dur pour nos amis québécois que j'apprécie beaucoup, et j'ai écrit un livre sur une laïcité interculturelle, le Québec, avenir de la France, donc très positif sur le Québec. Ceci dit, des fois, les Québécois sont un peu adolescentriques par rapport à l'Église catholique, c'est-à-dire que ils ont une vision qui d'ailleurs historiquement est fausse d'une Église catholique omnipuissante, omniprésente jusque dans les années. Alors c'est en moitié vrai, en moitié faux, mais là aussi, si vous voulez, quand on lit par exemple des historiennes féministes du Québec, elles détruisent le mythe de toutes les familles qui avaient 15 enfants. Il y avait 3% de familles qui avaient plus de 10 enfants, mais il n'y en avait pas 90%. Bon. Donc, y a un mythe de l'Église omniprésente, omnipuissante, bon. Et puis la Révolution tranquille où on se serait libéré de cela, et du coup il faudrait toute tentative de marquage religieux dans l'espace public serait un retour en arrière par rapport à la Révolution tranquille, etc., etc. Bon. Là aussi, ça relève de la sociologie de la peur et pas de la sociologie de la laïcité. Ça relève de la sociologie de la perte d'une projection dans l'avenir, exactement comme je l'ai dit pour la France. Bon, alors, pour le Québec, c'était le blocage, si vous voulez, de l'espoir nationaliste, hein, qui amenait ce repli de la société québécoise. Bon, peut-être que les événements actuels depuis quelques mois au Québec amènent de nouvelles possibilités, puisque du coup la société québécoise, le conflit ne porte plus sur nationalisme, pas nationalisme, mais sur un autre sujet qui intéresse, disons, le fonctionnement des sociétés démocratiques. Mais bon, c'est clair pour moi qu'il y a deux visions possibles du Québec, là encore en étant très schématique, une vision qui veut en faire une sorte d'îlot francophone, nationaliste, indépendant en Amérique du Nord, qui serait un océan anglophone, ce qui est complètement faux, parce que maintenant il y a presque autant d'hispanophones aux États-Unis que d'anglophones, et donc là encore on est sur des schémas dépassés, complètement dépassés. Ou alors il y a une autre vision qui fait du Québec une société passerelle entre la francophonie et les sociétés nord-américaines. Et la société québécoise est beaucoup plus nord-américaine que certains le croient. Bon. Et cette société passerelle serait très intéressante. Et nous, Français, on est activement engagés là-dedans, parce que si c'est une société passerelle entre la francophonie et les sociétés nord-américaines, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus écouter ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se pense au Québec. Et moi, par exemple, les Québécois m'ont fait découvrir des auteurs anglophones que je ne connaissais pas, par exemple, des choses comme ça. J'ai beaucoup la lecture des spécialiste québécois est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Le sapin de Noël, c'est une crispation, là encore, où vraiment... Alors, c'est quand même extraordinaire qu'à un moment où vous avez des questions environnementales, par exemple, énormes, et où on se demande si on n'est pas en train de détruire la planète ou pas, on se paye un conflit pour savoir s'il doit ou pas avoir un sapin de Noël sur une place publique. Bon, il faut voir, moi, si vous voulez, lisant ce que les gens disent aujourd'hui sur il y a 100 ans, j'imagine ce que les gens dans 100 ans diront de nous. Et des fois, ils diront que vraiment, on a coupé les cheveux en quatre, et c'était un refus de voir et d'affronter un certain nombre de problèmes qui étaient 10 000 fois plus importants pour l'avenir de l'humanité que les problèmes sur lesquels on s'est écharpé de manière très passionnelle. Bon. Et donc, moi, je combats beaucoup, justement, une laïcité prétexte, si vous voulez, à découper les cheveux en quatre, et à avoir des œillères pour ne pas voir l'ensemble des problèmes qui se posent. Bon, alors dans l'ensemble des problèmes qui se posent, il y a des problèmes de laïcité. Ce que j'ai dit sur l'ordre anthropologique, il y a un véritable débat laïque à avoir à l'échelon international, puisque le Vatican, certains pays musulmans, etc., agissent dans un sens très précis au sein de ces questions. Si vous voulez, justement, replaçons les problèmes dans leur importance respective, et ne faisons pas de problèmes qui sont des problèmes quand même mineurs quelque chose qui deviendra... Bon, en plus, le sapin de Noël, c'est vraiment quelque chose de culturel. C'est vraiment quelque chose de culturel. Que je sache, dans le christianisme, il n'y a pas une adoration du sapin. Ça me semble typiquement un faux... le fait de fixer la laïcité sur de faux débats, ce qui absorbe l'énergie et qui détourne de questions plus importantes. C'est puissance 100, ce qui a été fait sous Émile Combes, je dis bien sous Émile Combes parce que c'est pas Émile Combes le responsable. Émile Combes a essayé de canaliser un certain nombre de choses, mais sous Émile Combes, on a fait ça, on a passé énormément d'énergie à des choses qui finalement se sont révélées non seulement moins importantes, mais maintenant on parle de la République contre la décongrégation, alors qu'à l'époque, on parlait des congrégations contre la République. Voilà. Donc,
merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Bobéro. C'est déjà un bon début pour des débats qui vont continuer pendant, je crois, les 2 jours.